Radio Django. Culture.
Cette année, nous célébrons les 70 ans de la Cinémathèque suisse et pour marquer le coup, cette institution s'est associée à une autre institution de la région, le Musée d'art de Puy, qui accueille jusqu'au 16 décembre l'exposition 100 ans d'affiches. 100 ans d'affiches puisées dans la richissime collection de la Cinémathèque qui compte pas moins de 500 000 affiches de cinéma du monde entier. Une exposition est au croisement de la sociologie, de l'histoire, de l'art et de notre histoire personnelle. Anna Maria, tu es allée aller visiter cette exposition pour nous.
Oui, j'étais accompagnée par l'une des curatrices, Victoria Mulig, historienne de l'art et conservatrice du Musée d'art de Puy. Ensemble, nous parlons de cinéma, d'affiches, bien sûr, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, sociologie, histoire de l'art, histoire personnelle, mais aussi politique, passion, Cuba, vamp, naissance du star system. C'est parti pour un voyage dans le temps sans entracte ni pop-corn.
Alors, la collection de la Cinémathèque a été constituée par André Chevalier. On lui a donné carte blanche pour le faire et il s'est pris de passion réellement pour l'affiche de film. Cette exposition, c'était vraiment une idée de travailler sur cette affiche, l'affiche de film qui constitue donc un genre spécifique parce qu'il est reconnaissable du premier coup. On arrive à la distinguer d'une affiche de propagande, etc. On essaye de captiver en une seule image tout un film. Donc peu à peu et très rapidement, en fait, dès les années 10, on va commencer à vraiment pouvoir parler de genre. On a voulu mettre par exemple là cette première affiche du film Vampire, aussi pour marquer ce côté sociologique qui nous intéressait. Alors déjà, c'est un grand film, on a Theda Bara, actrice principale, mais aussi déjà rien que dans le nom de ce film qui va donner le terme de vamp à la femme, donc ces femmes justement parfois vénales, séduisantes, etc., vient vraiment de ce film-là, de ce titre du film.
Parce qu'en fait, une affiche, elle s'inscrit, bon, elle vend un film, mais elle parle aussi d'une époque, elle parle d'un pays, elle parle d'une culture, c'est pas juste vendre un film.
Pas du tout, c'est vrai. Elle s'adresse à un public spécifique. Donc il y a des affiches de plusieurs pays pour un seul film. Le but est toujours de connaître les gens qui vont venir voir le film, de s'adresser à eux, en accrochant le regard avec des choses qui sont courantes ou séduisantes pour un certain public. Là, on va avoir plusieurs affiches, que ce soit des affiches des fois américaines, polonaises, ici italiennes. Pas mal française quand même, suisse également, et en fait on s'adresse toujours à un public effectivement.
Mais là typiquement, Riamer, ça c'est une affiche de quel pays, Gorskiri?
On est dans l'affiche polonaise, à côté l'affiche française du film de Giuseppe De Santis justement, donc on voit la reprise de ce même personnage, hein, de cette femme forte justement, de cette travailleuse qui va être mise en avant, également dans l'affiche polonaise. Par contre, on va jouer pas sur la même intrigue. Mmh. Là, on a quelque chose qui va ressembler plus au film policier et là, plus à la romance. Donc, on s'adresse pas de la même façon au public polonais qu'au public français.
Et tout le discours politique et sociologique, il est presque absent. Enfin, il est absent de ces deux affiches, en fait.
Oui.
Comme si le thème central
était une romance ou une intrigue.
Intéressant.
Là, sur les pantomimes, on a voulu mettre cette affiche qui est très connue de tous, le théâtre optique d'Émile Reynaud, justement pour dire que ce n'est pas encore une affiche de cinéma, mais on commence à vendre quelque chose qui ne s'appelle pas encore le cinéma, c'est le théâtre optique, et on va utiliser tous les codes de l'affiche illustrée, c'est-à-dire cette affiche qui naît au début du XVIIIe siècle, justement, on va commencer à illustrer à travers des personnages. Donc là, on a déjà cette femme en corset, on a sa poitrine qui est plus ou moins sublimée, on le reverra après tout le long dans les affiches américaines, justement, où on a cette touche qui est mise en avant de la séduction. On a donc tout le spectacle qui est mis, le mouvement qui est aussi important déjà dans ces premières affiches. Après, on a le Royal Bouillographe qui nous illustre très, très précisément justement la machine, la technique du cinéma à travers justement la pellicule, mais aussi la lumière et la projection. Donc on est là pour vendre une expérience cinématographique.
Voilà. On n'est pas là pour vendre un film, mais c'est une, comme vous dites, une expérience, un moment de, qui était vécu plutôt comme quoi, comme une distraction,
un divertissement. C'est le cinéma n'est pas encore dans des salles, c'est les foires, c'est les forains qui possèdent ces genres de machines, et puis on met des petits programmes dans des panneaux dans les villes, justement, avec les films qui vont passer ce soir. Et chaque jour, on change soit la pellicule ou des fois, c'est juste justement le forain qui tourne avec ce même film. D'ailleurs, on peut voir une des premières affiches de cinéma. Ça ressemble à ça. Donc, uniquement du texte, on a là le sentier, le cinématographe suisse et une liste de films qui m'a passé, La bataille sur le Yalou ou justement La fête des vignerons. Et là, justement, Gianni Aver m'apprenait qu'il y avait même eu une copie pirate de cette fête des vignerons en 1905. Donc, il y en avait une officielle qui avait été filmée par la fête des vignerons et une autre qui a été filmée depuis le toit d'une maison à Vevey et qui avait fait une copie donc, de la fête des vignerons et qui passait justement dans des foires.
Donc, en 1905, il y avait déjà des copies pirates de films.
Oui. Wow. Oui, je l'ai appris là, justement, Tania Ver, qui est quand même notre spécialiste de l'affiche, en tout cas de ce support-là, et qui a pu justement, donc nous, qui est le commissaire invité de cette exposition, et qui a pu justement nous aider dans cette sélection pour aussi nous apprendre ce qu'est l'affiche, je dis nous au musée, mais aussi au public, et puis qu'on puisse lire ensemble, lui avec son regard de sociologue, moi avec celui de l'historienne de l'art et la cinémathèque avec cette expertise du cinéma. Très belle collaboration qui est née aussi grâce à Christophe Bolli qui est arrivé à la cinémathèque et qui a découvert en fait ce trésor d'affiches et qui venait du milieu muséal et a proposé de faire quelque chose pour les 70 ans. Et donc nous on a rebondi, le musée d'art depuis essaye aussi d'inviter d'autres disciplines à participer à ces programmes d'exposition, et là c'était génial, on s'est jamais intéressé au cinéma jusqu'à présent, donc c'était une très belle chose de le faire.
Comment est-ce qu'on sélectionne 100 affiches à partir d'une collection de 500 000?
Alors déjà il y en a 36 000 numérisées, peut-être un peu plus récemment, mais donc c'est surtout à partir de ces 36 000 qu'on a choisi. Et c'est très compliqué comme choix. On peut faire 1000 expositions. Le but était de marquer cet anniversaire des 70 ans, donc de pouvoir montrer cette collection, des bribes de collection, parce qu'on n'arrive pas à tout montrer. Et puis surtout de faire une exposition non seulement sur le cinéma, non plus sur l'histoire de l'art. Et donc on a vraiment invité Gianni Aver comme sociologue de l'image pour nous parler de l'affiche, de ce support qu'est l'affiche. Et là c'était l'idée de montrer ensuite 100 ans d'affiche, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'elle évolue, et de se concentrer uniquement sur l'affiche. Donc il va en manquer plein, les gens des fois qui sont des passionnés d'un film, qui connaissent l'affiche, mais elle est sublime, pourquoi elle n'est pas là? Déjà, elle n'est pas toujours à la Cinémathèque dans ses collections, il y a beaucoup, mais il n'y a pas tout. Et après, il faut surtout pouvoir raconter cette histoire. Comment est-ce que l'affiche évolue? Comment est-ce qu'elle diffère selon les pays, les époques? À qui elle s'adresse? Et qu'est-ce qu'elle vend?
Il y en avait des beaucoup plus belles. Il y en avait des beaucoup plus intéressantes. Le but, c'était vraiment que les gens puissent circuler, se dire, voilà, l'affiche évolue comme ça avec, au courant des décennies, au courant du dernier siècle. Et puis d'avoir en tête en fait un parcours de l'affiche, ça c'était le plus important. Et puis pour ça, il faut pouvoir mettre de côté ses coups de cœur.
C'est une exposition qui est bien visitée ou après la ruée que vous avez eue avec Audelaire?
Aucune exposition va battre Audelaire, mais c'est sûr que c'est un nouveau public et déjà c'est fascinant pour nous, plus familial aussi. Pas un public qui est habitué à l'art contemporain ou aux expositions d'art, qui fait plaisir à voir et qui, justement, comme je disais, c'est une exposition qui se visite de manière différente. Ce public-là vient surtout pour se rappeler parfois de films, pour montrer. J'entendais encore une mère à son fils, tu t'as pas vu E.T.? Je t'ai pas montré ce film. Oh, non, mais il faut vraiment que tu le vois, c'était super. À la nuit des musées, on a eu beaucoup de familles comme ça qui se sont dit, ah, j'ai oublié de montrer ce film à ma fille, je vais le faire la semaine prochaine. C'est très joli,
C'est quelque chose, oui. L'affiche de film, elle parle différemment. Elle ne parle pas uniquement aux yeux, mais elle parle aux souvenirs. C'est des sortes de Madeleine de Proust, en fait, je crois. Et ça, c'est un peu différent de l'art, quand même. On voit qu'on ne parle pas du même sujet.
C'est pas un public forcément intéressé par l'aspect sociologique ou l'aspect historique. C'est purement émotionnel, en fait.
Alors, pas seulement, c'est une manière de voir l'exposition, de le voir avec le cœur, mais on a justement ce guide de visite qui a été recommandé notamment par certains de vos collègues, où en fait on peut s'intéresser à l'aspect politique, on peut s'intéresser à l'aspect sociologique ou l'aspect artistique si on veut le faire, en fait. Donc on nous donne une image à voir, on peut la prendre telle quelle avec le ressenti qu'on a, où on peut justement se dire c'est beaucoup plus l'affiche cubaine, toutes ces informations on ne les sait pas à première vue, mais si on veut les savoir on peut en lire un peu plus, et après bien sûr s'acheter un livre autour de l'affiche ou uniquement sur l'affiche cubaine ou polonaise ou sur les blockbusters, il y a beaucoup à dire. Je pense qu'il faut rester curieux.
Et vous êtes une des curatrices de cette exposition, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette exposition, qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que vous avez fait des études d'histoire de l'art, vous avez un solide parcours aussi au niveau histoire et esthétique du cinéma. Qu'est-ce que vous avez appris par la préparation de cette exposition ?
Tout, vraiment, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'affiche. J'ai d'ailleurs tendance à être une historienne de l'art qui regarde l'affiche, et c'est bien pour ça aussi qu'on s'est entouré des bonnes personnes pour lire l'affiche de manière sociale, en fait. Moi, je ne vois pas toujours le public derrière. J'ai tendance à regarder l'affiche pour le courant qu'elle représente, dans lequel elle appartient, ou sociologiquement, politiquement, mais pas à m'intéresser à comment est-ce qu'on va vendre un objet, comment on va parler du film et quels sont les arguments derrière, parce que c'est avant tout un objet commercial et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose que, dans mon métier, on regarde beaucoup moins. Donc, il y a un autre aspect. Je pense aussi à ce côté social qui est très intéressant. Si je devais maintenant... Pour des autres expositions, parler d'art contemporain, j'irais parfois voir dans l'affiche de cinéma comment est-ce que cette période ou ce sujet a été traité. C'est très intéressant de le faire autour d'un public, autour d'une anecdote. C'est quelque chose sur laquelle je vais m'ouvrir bien plus. C'est étonnant, mais l'affiche de film, on a un enfant qui nous... J'entendais sa maman qui disait, mais tu sais pas ce qu'est une affiche de film ? En fait, des affiches de film, on n'en voit plus. On n'en voit que à côté du cinéma, au film, à côté du... Enfin, dans les salles de cinéma, mais plus dans les abribus ou d'autres choses. L'affiche de film, elle a disparu de notre paysage urbain. Donc, si vous adressez à des enfants, quand vous parlez d'affiche de film, ils ne sauront plus de quoi vous parlez. Ça nous semble étonnant, mais c'est vrai. Puis aujourd'hui, c'est surtout sur des panneaux lumineux ou à travers la bande-annonce qu'on va vendre le film. On n'a plus besoin de se limiter à une seule image. La bande-annonce a vraiment remplacé peu à peu l'affiche. Là, on a voulu, dans cette salle, s'intéresser au début du Star System pour nous parler aussi, pour faire un clin d'œil au cinéma qu'on connaît. On a par exemple cette magnifique affiche du film du Lion des Mogols. Parce que ce qu'on voit avant tout, déjà dans ce qui est écrit, on voit surtout le nom de l'acteur en rouge sang, Ivan Mosjoukine. Et ensuite, seulement en second plan, le Lion des Mogols. Et en troisième plan, le réalisateur Jean Epstein. Cette affiche, elle est très intéressante parce qu'elle est de style art déco, et en fait elle va être primée justement à la Foire des Arts Décoratifs à Paris parce qu'elle est avant-gardiste et qu'elle va justement donner ses lettres de noblesse à cet art qui émerge à ce moment-là. On a justement cette géométrie, l'usage de matériaux précieux. Je ne sais pas si vous le voyez, on devrait s'approcher, mais c'est une encre argentée qui a été utilisée pour le fond. C'est très rare, on va le retrouver peut-être dans les années 30, mais ce n'est pas quelque chose de courant. Donc on voit aussi de Boris Bilinski une volonté de faire quelque chose de prestigieux. Et on est captivé par ce regard bleu de loin d'ailleurs.
Impressionnant.
Donc on y va avant tout pour l'acteur. Donc là, on est vraiment dans un début du Star System. On commence à vendre les films pour leurs acteurs, pas seulement pour le récit ou pour toute la mise en scène. On va essayer de vendre le film, de captiver le regard, que ce soit aussi aux États-Unis, là, avec Charlie Chaplin, où on montre déjà son personnage comique tout à travers l'affiche. Là, on montre un autre regard. Après Hollywood, on a voulu parler d'un cinéma complètement différent, qui est le cinéma cubain à travers ses affiches. Quelque chose qui me tenait à cœur. La Cinémathèque a une très belle collection d'affiches cubaines. Lorsque Castro arrive au pouvoir, il va très vite comprendre que le cinéma, c'est un outil de propagande, qu'il va pouvoir parler au peuple cubain à travers le cinéma. Et puis, dans le cinéma, il compte l'affiche. Donc là, l'affiche a souvent été le parent pauvre du cinéma. Pour lui, l'affiche fait partie aussi de cette propagande. Donc on va demander aux graphistes cubains de refaire toutes les affiches des films internationaux qui arrivent sur le territoire.
Mais c'est presque des œuvres d'art. On n'est plus dans la vente, on ne pousse pas à la consommation. Moi, je vois une création artistique.
C'est intéressant parce que déjà, au début, Cuba avait décidé de ne pas faire signer les affiches par des auteurs parce que là, le cinéma est un art collectif. Et d'ailleurs, toute en fait, production cubaine est un art collectif, donc pas d'auteur. On ne veut pas du tout avoir le culte de l'auteur comme ailleurs. Alors, ici, on commence à avoir justement des signatures. Donc, il y a cette opposition-là. Et en même temps, effectivement, on signe presque une œuvre. C'est des petits tirages. On est à 2000 tirages sur les films internationaux, 3000 tirages sur les films cubains. C'est des affiches qui appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO, justement parce qu'elles parlent d'un art en fait, qui se crée à Cuba. Et c'est intéressant de voir aussi effectivement le statut de ces affiches, parce qu'il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Et puis le statut de l'affiche est quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la conservation. Il y a des pays pour lesquels, par exemple, la Pologne, où l'affiche a été considérée comme une œuvre, justement. Conservé dans des musées et pas du tout comme un produit justement de masse ou de vente. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est vrai, on ne vend pas forcément un film alors qu'on le présente uniquement. Le statut de l'affiche va être intéressant aussi à lire au cours du XXe siècle pour voir quand est-ce que tout d'un coup les musées le conservent comme une œuvre ou pas. En France, ça n'a pas été le cas. En Suisse non plus, on n'a jamais considéré l'affiche que comme une production commerciale.
Il n'y a que les adolescents qui gardaient les affiches pour les mettre sur leur mur, finalement.
Et ben après cette exposition, on a beaucoup de gens qui repartent avec des affiches en haut, je vous montre.
Vous avez parlé de la collection des affiches cubaines. Est-ce qu'il y a aussi un trésor comme ça d'affiches suisses à la Cinémathèque suisse ou pas particulièrement ?
Alors c'est une des particularités peut-être de la Cinémathèque suisse, c'est qu'ils ont gardé pratiquement toutes les affiches suisses des films lorsque, du moment où ils les ont collectionnées, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans les autres cinémathèques. Un des trésors de la Cinémathèque, c'est d'avoir déjà ces affiches en trois langues, donc d'avoir l'affiche française, l'affiche italienne d'un film et l'affiche allemande. Parce qu'on ne refait pas toujours des affiches suisse pour la Suisse. On va vraiment prendre le matériel allemand, le matériel italien et le matériel français. C'est pour ça que vous avez pu avoir beaucoup d'affiches allemandes, d'affiches italiennes. Donc ça, c'est un des vrais trésors, en fait. C'est ce trilinguisme, en fait, multilinguisme, devrait dire, qui a permis d'avoir une sorte de condensé européen, en fait, du cinéma, donc de l'affiche de cinéma, plutôt.
Et quid du romanche ?
Non, alors à ma connaissance, je n'ai pas vu d'affiche en romanche.
Merci à Victoria Mulig pour cette passionnante visite à ton micro, Anna-Maria. On voit que les fêtes foraines ont multiplex. Le cinéma a déjà vécu de nombreuses vies. Longue vie au cinéma et longue vie à la Cinémathèque suisse.
Oui, pour continuer à fêter le cinéma tout au long de l'année, vous pouvez retrouver le programme de la Cinémathèque sur son site www.cinémathèque.ch. Et en ce moment, vous y verrez notamment, en plus des habituels cours ouverts au public, vous y trouverez des coups de projecteur, notamment sur l'œuvre de Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, Jean Rochefort ou encore Luchino Visconti, pour n'en citer que quelques-uns.
Mmh. Et quant à l'exposition 100 ans d'affiches, elle est visible jusqu'au 16 décembre prochain. Comme bon nombre de musées lausannois, l'entrée est libre le premier samedi du mois. Et ce 1er décembre, justement, vous aurez droit également à une visite commentée. Mais vous retrouvez toutes les informations utiles, les horaires, les tarifs, etc. etc. sur le site www.museedartdepuis.ch. www.museedartdepuis.ch. Merci beaucoup, Anna-Maria, pour ce dossier, cette visite.
Je vous en prie.
It was a two-day wedding and the whole folks wished them well. You could see that the air is truly loving Mademoiselle. And not a young child and a dance from the chapel bell. C'est la vie, c'est du beau. Gonna show you never can tell. It's burning up on the apartment with a two-room room.
Aaron Neville, You Never Can Tell, C'est la vie 1993 et c'est la bande originale du film Pulp Fiction.